Vous êtes sur RTL. RTL. 22h minuit, parlons-nous. Sabine Calégari sur RTL.
Bonsoir, je suis heureuse de passer cette belle soirée d'été avec vous et j'ai envie de vous dire quelques mots du prénom que nous fêtons aujourd'hui, Victor, car il a un sens positif, porteur. Victor est dérivé du latin vincere, qui signifie vaincre. Victor, le vainqueur, donc. Nous nous sommes tous dit un jour que le prénom que nous portons est important et qu'il écrit une part de notre destin. À la lumière de la psychanalyse, je peux vous affirmer à quel point c'est vrai. D'abord parce que le prénom contient le désir des parents, ce qu'ils imaginent pour leur enfant avant même qu'il n'arrive au monde. Et quand l'enfant commence à parler, à saisir la signification des mots, il s'identifie inconsciemment à son prénom. Papa et maman ont rêvé que moi, Victor, je sois un vainqueur, alors pour qu'il m'aime, je le deviens. Adulte, un être humain continue à s'identifier à son prénom, mais en lui ajoutant des significations nouvelles, un sens que lui-même, et plus seulement ses parents, donnera à son prénom. Je suis Sabine Calégari, psychanalyste, et jusqu'à minuit sur RTL, je suis là pour accueillir votre parole au 09 69 39 10 11. Sarah et Colin sont déjà prêts à vous recevoir au standard. Et pour nous écrire à propos de ce que vous entendez, c'est par SMS au 64 900 code RTL ou toujours sur la page Facebook RTL-parlons-nous. Marc Bisset veille à la réalisation, alors nous pouvons commencer. Bonsoir Élodie.
Bonsoir Sabine.
Eh bien je vous écoute Élodie.
Bah écoutez, déjà merci de m'accueillir à l'antenne.
Avec plaisir, vraiment.
Voilà, j'attendais ce moment avec impatience.
Ah, ça faisait un petit moment que vous pensiez à nous appeler ?
Oui, en fait, je vous écoute depuis le début de cet été où vous êtes arrivée à l'antenne.
Oui.
En fait, je vous ai découverte parce que je ne vous avais jamais entendu
parler. Oui.
Beaucoup la façon dont vous vous adressez aux auditeurs, l'accompagnement que vous leur apportez et toute l'empathie.
Ah,
et
je vous remercie. Je vous remercie vraiment. J'y mets beaucoup de cœur et tant mieux si ça se passe.
Oui, mais tout à fait. Ça se ressent beaucoup et quand on est dans notre. Quand on vous écoute, ça nous amène beaucoup aussi, ça nous aide beaucoup.
Ah, donc je me suis dit que peut-être. C'est moi qui vous remercie.
Je me suis dit que peut-être que vous alliez pouvoir m'accompagner et puis peut-être m'ouvrir certaines portes que je n'arrive pas à ouvrir.
Ah, mais écoutez, je vais faire tout ce que je peux pour ça. En tout cas, je vous écoute attentivement.
Voilà. Donc voilà. Donc il y a 5 ans, un peu plus de 5 ans, en avril 2016, mon mari a 51 ans, a fait un AVC.
Oui.
Ça s'est passé à la maison. C'est ma fille de 17 ans qui l'a retrouvée dans le lit.
Oui.
Il est parti avec les pompiers, il était dans le coma, il ne s'est jamais réveillé. Avec mes deux filles et ses parents, c'est un enfant unique.
Oui.
Nous avons partagé, nous sommes restés pendant une semaine dans l'attente. On espérait toujours qu'il allait revenir parmi nous, mais oui. Chaque jour, on nous annonçait des très mauvaises nouvelles. Et jusqu'au moment où on nous a dit que j'allais le débrancher.
Oui, oula, ça c'est dur.
Donc ça a coïncidé avec les 20 ans de ma fille aînée.
Oui.
Et ma fille a eu 20 ans le 19 avril et je ne voulais pas que son papa parte pour ses 20 ans. Avec l'équipe médicale, on a décidé de le débrancher le lendemain.
Oui.
Ça a été très, 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 très difficile pour nous trois déjà, mes filles et moi, et pour ses parents. Quand mon mari est parti, j'ai perdu tous mes repères. Moi, je suis quelqu'un, je suis une personne très volontaire, très je suis plutôt dynamique.
Oui.
J'avais l'impression d'être le moteur de la famille. Et en fait, quand mon mari est parti, je me suis rendu compte que c'était lui le moteur parce que je ne savais plus rien faire quand
il
est parti.
Ou alors c'était le moteur du moteur.
Peut-être. Mais
oui.
Voilà, c'était voilà. Je ne savais. Moi, j'aimais cuisiner, je savais plus cuisiner. Il y a plein de choses que j'ai perdues quand il est parti. Et en fait, les premiers mois, j'ai essayé de tenir.
Oui.
Déjà, j'ai tenu 2 mois sans médicaments. Et moi, je travaille dans le milieu médical.
Ah, quel métier faites-vous, Élodie ?
Alors, à l'époque, j'étais aide opératoire. C'est-à-dire que j'aide les chirurgiens pendant les interventions au bloc opératoire.
D'accord. Donc, le réel de la maladie, vous savez ce que c'est ?
Exactement. Bon, je travaillais quand même dans un secteur plutôt privilégié puisque je travaillais en chirurgie esthétique. Oui. Malgré tout, vous côtoyez des gens qui ont vécu des choses difficiles, donc voilà. Et de par mon enfance, je sais ce que c'est que la difficulté de la vie.
Oui.
Donc j'ai beaucoup bataillé toute ma vie. Et le but de ma... Enfin, toute petite, je rêvais d'avoir une famille parce que malheureusement, la vie ne me l'avait pas donnée. Et toute petite...
Vous voulez dire que votre famille n'en était pas une pour vous ? Quand vous dites...
Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, je suis née en Algérie.
Oui.
D'une mère qui, à l'époque, avait 40 ans. Donc déjà, c'était rare à cette époque-là.
C'est vrai.
D'une femme algérienne qui a eu deux enfants à 19 ans d'écart. Donc j'avais un frère, demi-frère de 19 ans.
Oui.
Et je suis née, donc, pour ses 40 ans, d'un père inconnu. Et elle avait, avec mon frère aîné, a eu aussi un père inconnu.
Ah. Et il y avait un homme qui vivait avec votre mère au moment de votre naissance ?
Non, non, d'accord. Du tout.
Elle était
en fait, elle vivait avec sa mère.
Oui.
Et elle m'a, quand elle m'a eu, elle a, en plus, elle a caché la grossesse à son. Je dis son fils parce que pour moi, je le considère pas comme mon frère, ce qui m'a fait souffrir.
Oui.
Donc quand elle m'a eu, et en fait elle l'a mis devant le fait accompli quand je suis née. Et en plus elle n'avait pas de moyens et il a été obligé de subvenir à ses besoins et aux miens. Donc à l'âge de 4 ans, lui il était parti parce qu'il voulait faire des études en France, il était venu en France. À l'âge de 4 ans, on a quitté l'Algérie.
Oui.
La seule personne qui m'apportait du réconfort et de l'amour, c'était ma grand-mère, la mère de ma mère.
Oui. Qui, elle, elle vivait où, votre grand-mère ?
Elle vivait avec nous.
D'accord. Donc, elle a quitté l'Algérie avec sa fille, c'est ça ?
Elle n'a pas quitté l'Algérie. Elle est restée en Algérie.
D'accord.
C'est ma mère et moi qui avons pris, et j'ai 58 ans aujourd'hui, et c'est passé quand j'avais 4 ans, et je me rappelle combien j'ai pleuré quand... J'étais sur le bateau et que j'allais la quitter, pour d'ailleurs ne plus jamais la revoir. Et parce que je pense que, voilà, je savais que c'était la personne qui m'apportait de l'amour. Et je partais en terrain inconnu et je ne savais pas ce qui allait m'arriver. Et en fait, j'étais beaucoup le souffre-douleur de ma mère et de son fils.
Et qu'est-ce qui a décidé votre mère à quitter l'Algérie quand vous aviez 4 ans ?
Parce qu'elle a voulu rejoindre son fils et qu'elle ne pouvait plus survenir à ses besoins.
Ah, d'accord. Donc et son fils, donc votre demi-frère, lui, il était parti longtemps avant ?
Oui, il était parti, je pense, de mon souvenir, il était parti, oui, au moins... Je ne sais pas si pendant les 4 premières années de ma vie, je n'ai pas de souvenir de lui. Je pense d'accord. qu'il était parti depuis longtemps, oui.
D'accord. Donc en fait, votre mère, c'était une nécessité de survie. Elle rejoignait son fils pour pouvoir subvenir à ses besoins et aux vôtres.
Tout à fait. Tout en sachant qu'elle avait 44 ans quand on est arrivé en France et qu'elle a toujours, elle s'est toujours arrangée pour qu'elle ait des aides sociales, pour pas travailler, pour dire qu'elle était malade. Moi, j'ai une mère qui a toujours eu besoin des autres pour subvenir à ses besoins. Donc j'ai un schéma de vie difficile parce que, en fait, je pense que son fils n'a jamais supporté ma venue sur Terre et que, en fait, qu'il voulait me faire payer quelque chose.
Est-ce que vous pensez que c'était votre personne ou vous pensez que c'est parce que c'était lourd pour lui d'avoir à prendre en charge sa mère qui...
Je pense que c'était plutôt que c'était lourd pour lui.
Oui.
Et que la façon de manifester, je pense, sa colère, c'était de me taper. C'était de me donner des coups. Quand j'avais 7-8 ans, il m'avait enfermée dans une chambre. Et je n'avais pas le droit de sortir. J'avais un seau. Et j'avais le droit de sortir que pour aller à l'école. J'avais un seau pour faire mes besoins dans la chambre. Et ma mère acceptait tout ça. Elle aussi, elle avait des moments de violence envers moi.
Oui, c'est ce que vous évoquez tout à l'heure.
Voilà.
Des violences physiques aussi ?
Oui, physiques et psychologiques. En disant que j'étais incapable, j'étais en échec scolaire. Mon frère a toujours eu, apparemment, il était brillant, donc il était au lycée. Il avait, à l'époque, on appelait ça des prix. Ma mère me disait que mon petit frère était quelqu'un de brillant. Et moi, à l'école, comme on dit vulgairement, je ramais, j'avais beaucoup de mal.
Dans l'atmosphère où vous viviez, vous deviez être extrêmement perturbée et angoissée, Élodie.
Oui, j'ai vécu toujours avec la peur, en fait.
Bien sûr. Comment voulez-vous vous concentrer sur l'apprentissage en étant en permanence dans la peur?
Oui, malgré que d'aller à l'école, c'était une bouffée d'oxygène pour moi, parce que je rencontrais des enfants normaux, je voyais des vraies familles, je voyais des petites filles, des petits garçons, et après des jeunes de mon âge qui vivaient une vie dont je rêvais. Je les regardais vivre derrière la fenêtre de ma chambre. Mmh. Ils partent en vacances, j'ai jamais connu de vacances, jamais connu d'anniversaire, j'ai jamais connu de vacances, rien, quoi. C'était le désert. Ma mère n'a jamais voulu, les assistantes sociales venaient, elle voulait que je parte en colonie, ma mère n'a jamais voulu.
Les assistantes sociales avaient l'idée de ce que vous subissiez?
Non, du tout. Et puis à l'époque, je pense qu'ils ont entendu des cris, les voisins ne se sont jamais manifestés. Parfois, ils me mettaient dehors, vous savez, sur le palier, parce qu'ils ne voulaient plus me voir tous les deux. Donc moi, quand j'entendais quelqu'un qui montait dans les escaliers, à l'époque, il y avait des vies d'ordures. Donc je me cachais dans le local à vies d'ordures. Il ne faut pas que les gens me voient parce que j'avais honte. Parce que vous vous sentez à cet âge-là, et même plus tard, vous vous sentez responsable, vous pensez que c'est votre attitude qui fait que les gens, que votre famille est méchante avec vous.
C'est vrai, les enfants font toujours ça, c'est que pour eux, un parent, même maltraitant, est une instance toute puissante, quasi divine, donc qui ne peut pas se tromper. Donc effectivement, l'enfant pense que c'est de sa faute, que c'est lui qui fait mal, que c'est lui qui ne devrait pas être sur Terre. Oui.
Exactement. Et je le pense toujours d'ailleurs. Je suis toujours dans mon petit cœur, je suis toujours cette petite fille qui pense qu'en fait elle ne mérite pas d'être sur Terre. Je mérite pas. Il y a beaucoup de choses que je ne mérite pas. Mais malgré toute cette souffrance, j'ai réussi à me construire. En fait, ce que je voulais, c'est un instinct de survie que j'ai toujours eu.
Oui. Avez raison de parler de survie. Avec ce que vous avez traversé, vous êtes effectivement une survivante.
Oui. Oui. Et en fait, il y a eu un épisode à l'âge de 6 ans où un homme est venu chez ma mère. Et en fait, c'était mon père.
Ah, votre mère, vous pensez que quand vous dites de père inconnu, vous avez été déclarée de père inconnu, mais elle savait qui était votre père.
Alors, je porte le nom de cet homme.
Oui.
Mais je ne le connaissais pas.
Oui.
Parce que ma mère m'a raconté, elle m'a raconté son histoire à elle. Enfin, son histoire, une romance en tout cas, qui n'a jamais été réelle. Donc elle a un petit peu essayé de...
Qu'est-ce qu'elle vous avait dit avant vos 6 ans, avant que vous rencontriez votre père?
Elle m'a dit que mon père, qu'ils étaient mariés, qu'ils s'étaient séparés, que ceci et cela... Mais elle m'a jamais raconté que, en fait, c'était une histoire qu'elle a eue avec un homme et qu'elle a eu cet enfant sans le vouloir, ni lui ni elle.
Et votre père, vous savez à quel âge il a appris sa paternité?
Je crois qu'il l'a appris dès le départ.
Oui.
Ouais.
Et lui, il vivait en Algérie.
En Algérie.
Oui.
Et en fait, à l'époque, il n'avait pas d'enfant, il n'avait pas de famille. Ça, je l'ai su plus tard. Et j'ai ce souvenir de ce monsieur qui est arrivé chez nous à l'époque, on habitait en région parisienne, à Asnières, dans le 92, dans un studio avec mon frère et ma mère. Et il m'a pris dans ses bras, il m'avait amené des bonbons, et je m'en rappelle toujours.
Oui.
Il m'a demandé si je travaillais bien à l'école, parce que c'était ma rentrée au CP. Et j'ai le souvenir de le fils de ma mère qui est arrivé et qui l'a jeté à la rue.
Comment vous avez su que c'était votre père?
Eh bien, écoutez, je ne peux pas vous dire, mais c'était... Je ne sais pas. J'avais 6 ans, mais je savais que c'était mon père. Ma mère me l'a dit à ce moment-là. Je ne sais pas.
Donc, vous avez senti que dans sa manière de vous prendre dans ses bras, c'était une forme de reconnaissance ou d'adoption, quelque chose comme ça?
Oui, j'ai senti de l'amour de sa part, de l'attention. Et je suis restée sur cette image de cet homme et je me suis toujours identifiée à lui parce que je ne me reconnaissais pas dans les deux êtres avec lesquels je vivais. Et je me suis toujours dit, cet homme, je suis comme cet homme, je suis comme mon père.
Quelle image en avez-vous là maintenant? Si vous essayez de vous souvenir de l'image, qu'est-ce que vous voyez?
Alors, je vois un monsieur bienveillant, doux, qui était avec mes yeux de petite fille, je les voyais, je sais pas comment vous expliquer, mais comme un bourgeois. Vous voyez ce que
oui,
je veux dire?
Oui.
Quelqu'un qui présente bien.
C'est ça, un monsieur.
Un monsieur, voilà, un monsieur posé et bel homme.
Oui, ça c'est une vraie chance pour une petite fille de pouvoir voir son père, de voir de la beauté sur la personne de son père.
Oui, et je suis restée sur cette image, et toute ma vie j'ai voulu le retrouver. Ça c'est une autre histoire, voilà.
Donc vous l'avez vu une seule fois à vos 6 ans, et après il n'est plus apparu dans votre enfance.
Du tout, jamais.
Vous savez pourquoi?
Non, je ne sais pas. Alors, je sais, je pense qu'il a fait sa vie, puisque quand j'avais 38 ans, j'ai réussi à le retrouver, j'ai retrouvé sa trace.
Oui.
Et je sais que j'ai 3 sœurs plus jeunes que moi. Et que mon père était apparemment journaliste en Algérie, il avait une belle situation.
Oui.
Et je sais que j'ai 3 sœurs, dont une qui est biologiste, parce que j'ai réussi à retrouver leur trace.
Vous deviez être très déterminée pour ça, oui. Vous deviez.
Ah ben, c'est toujours été depuis l'apparition de mon père, à l'âge de mes 6 ans. Mon seul but, c'était de retrouver mon père, parce que en fait, je me suis dit, mon père a fait ce voyage, il est venu me chercher, c'est qu'il m'aime, et moi, je dois en faire de même et le retrouver.
Oui.
Et ça
vous a tenu en fait pendant toute votre enfance et votre jeunesse.
Tout le temps. Oui. Et ma fille de femme. Parce que malheureusement, mon papa, il m'a toujours manqué.
Enfin, malheureusement et heureusement, les deux, puisque vous dites qu'en fait, vous avez pris appui sur ce geste d'amour, sur cet amour, pour donner un but à votre vie.
Tout à fait.
Oui.
Tout à fait. Et en fait, ça m'a rassurée. Parce que quand je voyais, excusez-moi du terme, mais quand je voyais ces deux monstres traiter une petite fille de cette façon-là, je ne me sentais pas faire partie de leur famille.
Oui.
Et longtemps, je pensais que ma mère m'avait adoptée. Parfois, je lui ai déjà dit, je ne me sentais pas proche d'eux. J'avais rien en commun avec eux.
C'est important ce que vous dites, parce que ça illustre une défense qu'ont très souvent les enfants quand ils se sentent rejetés par leurs parents ou qu'ils n'arrivent pas à se reconnaître dans une famille. Ils imaginent effectivement soit qu'ils ont été adoptés, soit que leurs parents ne sont pas leurs parents, soit qu'il y a un ailleurs quelque part.
Mmh. Oui. Et en fait, ce qui quelque part m'a tenue, c'est le fait que j'ai vu cet homme et je savais qu'en fait, j'étais persuadée que Tout ce que j'étais, ça correspondait à ce qu'était mon père, quoi.
Oui, vous vous êtes identifié imaginairement à lui, même sans le connaître, vous vous êtes identifié côté père. Et si vous portiez son nom, Élodie, vous le portiez depuis votre naissance?
Oui.
Donc, et votre mère, vous avez dit que c'était le nom de votre père?
Oui, mais sauf que j'ai appris qu'en fait, mon père ne m'a jamais reconnue. Et que ma mère, elle m'a abandonnée à la naissance pendant 2 mois dans une pouponnière en Algérie.
Alors, qui a choisi votre prénom?
C'est ma mère, je pense.
Oui.
Parce que j'ai pas donné mon vrai prénom.
Ah, d'accord.
J'ai un prénom d'origine algérienne.
Oui.
Donc, c'est ma mère qui l'a choisi. Donc,
votre mère a choisi votre prénom. Elle a décidé de déclarer à l'état civil le nom de votre père, même s'il ne vous a pas reconnu.
Elle a réussi, je ne sais pas par quel moyen. En fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle m'a... Parce que quand j'ai été faire mon voyage en Algérie, on m'a appris la vérité. En fait, elle a accouché, elle m'a abandonnée. Et grâce à ça, grâce ou à cause, ou je ne sais pas si c'était bien qu'elle me cherchait, mais sa sœur lui a fait prendre conscience qu'elle avait un enfant et qu'elle devait l'assumer.
Oui.
Donc apparemment, je suis restée 2 mois à la pouponnière.
Oui.
Et d'ailleurs, j'ai été déclarée à la date où ma mère a été me chercher.
Ah, donc 2 mois plus tard.
Parce que ma mère m'a toujours dit, je suis née le 6 mai.
Oui.
Ma mère m'a toujours dit, mais ce n'est pas ta date de naissance depuis toute petite. Déjà, ça perturbe beaucoup, quoi.
Oui, mais il y a une étrangeté, c'est que votre vie ne dépend de l'arbitraire de quelqu'un d'autre, en fait. C'est quelqu'un d'autre qui décide du jour de votre naissance.
Exactement.
C'est vous étiez prise dans l'arbitraire maternel.
Exactement. Et ça aussi, c'est très... très difficile à vivre.
Et ensuite, vous en avez su un peu plus sur l'histoire entre vos parents, sur ce qui s'est passé entre votre père et votre mère.
Non, en fait, je sais simplement que ma mère a eu deux enfants. Il faut savoir que ma mère est née en 1923 en Algérie et qu'elle a eu son premier enfant en 1944 et son deuxième enfant en 1963, donc moi.
Oui.
Avec deux pères qui n'étaient pas ses maris, quoi. C'était pas, elle n'a jamais été mariée, elle n'a jamais eu de, voilà. Donc, je ne sais pas ce qu'elle faisait dans la vie, mais ma mère m'a toujours traitée de prostituée.
Ah. Et vous pensez que c'est une projection?
Oui. Mmh. En fait, en arabe, le terme de prostituée, c'est qahba.
Oui.
Et régulièrement, elle me traitait de toute petite. Et quand j'ai commencé à grandir, j'avais pas le droit de parler aux garçons, j'avais pas le droit d'avoir de copains garçons. Il fallait surtout pas que je voie des garçons.
En fait, ce que vous dites là, donc pour ceux qui nous écoutent, c'est un mécanisme psychique qu'on appelle la projection. Et vous avez eu l'intuition que c'était ce qui se passait quand elle vous injuriait comme ça. En fait, la projection, c'est que une réalité que nous ne pouvons pas accepter du dedans de notre monde psychique, nous la projetons au dehors, sur quelqu'un d'autre, et c'est inconscient. Donc au fond, quelque chose qu'elle ne pouvait pas reconnaître d'elle-même, ça s'appelle, elle le rejetait psychiquement, elle le projetait sur vous.
Oui, ou alors je me suis dit que peut-être qu'on l'a traitée comme ça dans sa jeunesse, parce que je pense que à l'époque où elle a eu ses deux enfants sans être mariée, ça a dû être très compliqué pour elle.
C'est aussi une possibilité. Enfin, en tout cas, l'hypothèse de la projection, c'est qu'elle a projeté sur vous une réalité qui était sa réalité propre. C'est possible, parce que c'est très énigmatique, sa manière d'avoir eu, en plus deux fois, ces deux enfants de père inconnu, en tout cas pour l'état civil. Oui, c'est assez mystérieux.
Mon frère portait son nom, tandis que moi, elle a insisté, elle a voulu que je porte le nom d'un homme, de ne pas porter son nom à elle.
Peut-être que ça vous a sauvé d'une certaine manière.
Peut-être.
Parce que finalement, enfin, ça, ce sont des choses qu'on sait bien en psychanalyse et pour toutes les disciplines qui s'intéressent à la structure psychique d'une personne, c'est que pouvoir s'inscrire dans une filiation paternelle, c'est extrêmement structurant. Parce que dans ce cas-là, c'est même si le père réel est absent, il y a une fonction paternelle qui est en action et qui fait tiers entre l'enfant et la mère. C'est-à-dire que dès lors qu'il y a la fonction paternelle, l'enfant ne peut pas être dans une relation duelle simplement à deux avec la mère et devenir l'objet de la mère. La mère ne peut pas annexer l'enfant puisqu'il y a un tiers, même au plan symbolique, dans l'histoire. Voilà. Donc ça,
m'aurait sauvé.
Ben, je pense que ça vous a sauvé de ce qui aurait pu être des troubles psychiques, parce que quand un enfant est pris dans une relation duelle, dans une forme de fusion même infernale avec la mère qui s'approprie l'enfant comme un prolongement d'elle, comme un objet, on sait que ça, cette situation-là, c'est ce qui peut donner des structures psychiques problématiques, voilà, et qui peuvent aller d'ailleurs jusqu'à la structure de la folie. Donc là, on peut dire que votre mère, bon, on ne sait pas si elle l'a fait en pleine conscience de façon éclairée, mais en tout cas, elle a inscrit dans votre vie quelque chose de structurant sur quoi vous avez pu prendre appui pour vous structurer, voilà, psychiquement selon la normalité. Puisque, alors, hélas, ça n'évite pas la souffrance, mais déjà, si ça peut éviter les troubles psychiques, voire la folie, c'est déjà considérable.
Oui. Donc après, quand j'ai grandi, d'abord, j'ai beaucoup souffert que ma mère soit vive, parce que moi, je vivais d'aide sociale. Hein, j'étais habillée par le Secours catholique, on ne payait pas les soins médicaux. Donc j'ai voulu assez rapidement travailler et j'ai toujours aimé le milieu médical. Donc je suis arrivée jusqu'au baccalauréat.
Oui.
Et je suis devenue secrétaire médicale.
Oui.
Et là j'ai connu une vie qui m'a beaucoup apaisée parce que j'ai beaucoup et j'aime beaucoup ce que je fais.
Oui.
Je suis arrivée dans un milieu hospitalier à Paris où j'ai été très, très aimée, très protégée par l'équipe médicale, par mes collègues, par les professeurs avec qui je travaillais.
Oui.
Ça m'a beaucoup aidée. Et j'ai voulu, mon plus fort désir intérieurement, c'était je voulais créer la famille que moi je n'ai jamais eue.
Oui. Là, on revient à ce par quoi vous commenciez ce témoignage.
Voilà, c'était vraiment ce que je voulais. C'était un rêve de petite fille et j'ai réalisé mon rêve.
Oui.
Et ce qu'il y avait de plus important dans ma vie, c'est mon mari, mes deux filles.
Comment vous avez rencontré votre mari ?
À l'hôpital.
Ah !
Voilà, il était brancardier et puis c'était un très bel homme de genre italien, 1m92, magnifique. Moi, je ne pensais pas qu'un garçon comme ça pourrait s'intéresser à moi.
Ce qui est intéressant dans votre histoire, Élodie, c'est que vous voyez que c'était inscrite en vous à vos 6 ans, dans ce qu'on appelle le temps de l'Oedipe en psychanalyse. C'est inscrite en vous une belle de l'Oedipe. En fait, c'est inscrit en vous une belle figure masculine puisque vous avez pu regarder votre père et voir une image marquée par une beauté, par une force. Et en fait, une des premières choses que vous disiez quand vous parlez de la rencontre avec votre mari, c'est aussi de la beauté et de la force. Un brancardier, c'est quelqu'un qui porte les autres.
Oui, oui, tout à fait.
Oui.
Et puis il était grand, il mesurait 1m92, un beau brun. Il n'est pas italien, mais c'était un style italien et moi je me considérais moche parce qu'on m'a toujours dit que j'étais moche, que j'étais laide et donc
ça n'a pas été son avis à lui.
Non, pas du tout. Écoutez, j'en étais fort étonnée et puis écoutez, on a vécu très rapidement ensemble.
Oui.
Et on était les opposés dans le fonctionnement, mais on avait le même désir dans la vie de créer une famille.
Oui.
On avait la même façon de penser.
Oui.
Voilà, on était les opposés dans le fonctionnement de la vie.
Qu'est-ce que vous entendez par les opposés ?
Moi, je suis quelqu'un d'extraverti, j'aime m'amuser, j'ai besoin du monde autour de moi. Mon mari était quelqu'un de solitaire, qui se suffisait à lui-même, à sa femme et ses enfants. Mais moi, j'ai toujours besoin d'être entourée par du monde, de vivre. J'ai une joie de vivre, entre guillemets. Parce que, comme je disais tout à l'heure à Sarah en ligne, j'ai depuis toujours, depuis que j'ai le souvenir, l'expression c'est j'ai le cœur qui pleure.
Eh oui.
J'ai une tristesse en moi qui est depuis toujours.
Oui.
Et qui a été exacerbée depuis le départ de mon mari.
Le cœur qui pleure. Au fond, vous parlez d'un. C'est précieux ce que vous dites parce que vous parlez de chagrin, vous ne parlez pas d'anomalie. Mmh. Oui, vous portiez un chagrin, vous portiez des larmes en vous. Et oui. ça m'inspire cette question, Élodie, si vous dites que vous avez le cœur qui pleure, est-ce que c'est juste de dire que dans la lutte pour votre survie qui a été votre enfance, vous n'aviez pas la possibilité de pleurer, vraiment ? Vous ne pouviez ?
Non, je ne pense pas.
Ben
oui. Je pleurais pas beaucoup, non.
Vous pleuriez dans votre cœur, en fait ?
Exactement.
Et
je me renferme, oui.
Et réellement, vous ne pouviez pas vous le permettre parce que je suppose que face à ce que vous appelez les deux monstres, ça, si vous aviez présenté des signes de faiblesse, ça aurait pu exciter leur sadisme.
Oui, je pense inconsciemment, je me suis protégée comme ça.
C'est ça, c'est ça. Et vos larmes, elles étaient dans votre cœur, pas à l'extérieur.
Oui. Et elles sont toujours présentes. C'est difficile à vivre. Plus je vieillis, plus c'est difficile. Et je vous dis que depuis le départ de mon mari, ça s'est beaucoup accentué. Et en fait, le fait que mon mari soit parti, je me suis retrouvée dans l'état de petite fille abandonnée. Même parfois, j'en ai voulu à mon mari de m'avoir abandonnée.
Alors là, je vais vous lire tout de suite parce que ça correspond exactement à ce que vous dites. Il y a beaucoup de messages de sympathie pour vous, Élodie. Et là, je vous lis un message de Stéphane qui correspond exactement à ce que vous évoquez là.
C'était le prénom de mon mari.
Oh, c'est incroyable.
Ça me touche beaucoup.
Alors merci. Stéphane vous dit, vous aviez trouvé, Élodie, un havre de paix avec la famille que vous vous êtes bâtie avec votre mari. Pas étonnant qu'à sa mort, vous soyez terrassée. Bise.
Oui, excusez-moi, ça me touche beaucoup.
Oui.
Après, c'est affreux ce qui me... J'ai tout perdu quand il est parti.
C'est ça, c'est ça.
En état de petite fille perdue, malgré que j'ai mes deux belles jeunes filles qui m'apportent tellement, mes deux petites filles, je dis mes petites filles parce que pour une maman, ça reste toujours ma petite fille. Mais depuis que mon mari est parti, je me sens tellement vide.
Oui.
Il a emmené plein de choses avec lui.
Oui, il
c'est
a.
Compliqué.
Oui, je comprends. Au fond, votre mari, c'était votre rêve. C'était la réalisation de votre. L'incarnation de votre rêve.
Oui.
Oui. Et vous avez l'impression qu'il a emporté le rêve avec lui.
Oui.
Vous n'arrivez plus à rêver, c'est quelque chose comme ça?
Oui, je me force parce que je me le dois pour mes enfants. Parce que bon, ils ont perdu leur papa et ils ont besoin d'une maman qui soit heureuse et qui leur apporte. Qui soit présente, parce que je sais ô combien c'est important d'avoir une maman et quand on n'en a pas et qu'on n'en a jamais eu, c'est tellement difficile. Et je veux être à la hauteur pour mes filles, parce
oui,
que je les aime tellement.
Mais là, je crois que c'est surtout vous qui avez besoin d'être consolée.
J'ai besoin. C'est pour ça aussi l'objet de mon appel, c'est parce que pendant longtemps, je me suis dit, il faut pas que je voulais jamais refaire ma vie. Et j'ai, depuis peut-être un an, j'ai le désir de rencontrer quelqu'un, mais c'est très particulier, j'ai ce désir, parce que d'abord, je me sens tellement seule que je souffre de cette solitude, sans pour autant être seule dans la vie, parce que j'ai mon travail, j'ai des amis, voilà, je suis quelqu'un de très gai, très aimé, je me sens seule et j'ai besoin de retrouver cette complicité, ce partage que j'avais eu avec mon mari.
Oui. Vous savez, vous m'avez dit tout à l'heure, et ce qui s'entend dans votre voix d'ailleurs, c'est que vous êtes une personne extrêmement vitale. Le côté vital en psychanalyse, ça s'appelle l'éros, c'est le même terme que l'amour. Et en fait, la pulsion vitale, c'est une force de liaison. Quand on est animé d'un élan vital, c'est une force qui nous pousse à faire des liens. Donc, il est normal qu'au bout d'un temps, cette force vitale en vous, qui fait partie de votre être, qui ne disparaîtra jamais, vous pousse vers le lien.
Oui.
Donc ça, c'est tout à fait logique.
C'est pour ça que je souffre de ne plus avoir ce lien.
Oui, ben oui.
Et en même temps, je me dis... Je ne sais pas si je suis prête à retrouver. J'en ai très envie.
Oui.
Et je ne sais pas comment l'exprimer. Je ne sais pas si vous comprenez, Sabine, ce que je veux vous exprimer. C'est que je suis partagée entre deux sentiments. Le sentiment de retrouver, justement, comme vous dites, ce lien, ce partage avec une personne qui me correspondra. Et en même temps, et quand je vois des gens, de par mon métier, je vois beaucoup de personnes. Et je n'arrive pas à trouver j'ai toujours l'image de mon mari, peut-être, ou je sais pas. Alors,
oui. Ce que j'entends, allez-y.
Non, là, allez-y.
Ce que j'entends, c'est que vous êtes partagée entre le désir. Vous savez, quand vous dites est-ce que je suis prête, dès lors que votre désir a pu renaître, c'est que vous êtes prête, parce que vous devez en savoir quelque chose. Le propre du deuil, c'est que. On a à intégrer la perte, à faire l'épreuve de réalité, à la considérer comme réelle. Et pendant cette période de deuil, ce qui caractérise le deuil, c'est d'ailleurs le sens de la couleur noire que l'on porte dans notre culture, c'est que le propre du deuil, c'est une extinction du désir. Pendant qu'on est en deuil, notre esprit est tout occupé à tenter d'intégrer la perte et on ne peut pas désirer ailleurs, quoi que ce soit.
Tout à fait.
Et le fait que vous disiez que votre désir de faire un lien renaisse, ça signe non pas la fin d'un deuil au sens d'un oubli, mais ça signifie que la période douloureuse, aiguë, écrasante du deuil a été traversée. Donc ça,
je le ressens comme ça.
Voilà. Donc d'un côté, vous êtes prête puisque votre désir renaît, mais je pense que de l'autre côté, si je vous entends bien, vous avez peur. Vous avez peur que confrontée à une nouvelle personne, vous ne puissiez pas aller vers elle et que s'interpose peut-être tout ce qui vous lie à votre mari,
exactement,
tout ce que vous avez partagé.
Ben
oui. Vous avez peur qu'il y ait ce fantôme en fait.
Oui.
Alors
je me suis inscrite sur un site.
Oui.
Mais alors déjà, quand je vois, en fait, j'ai l'impression que c'est un catalogue. c'est le côté un peu rigolo, quoi.
Oui.
Quand je vois tous ces hommes, j'ai l'impression d'être sur un catalogue et de choisir un homme, quoi. Et ça, je ne suis pas du tout faite pour ça, je crois.
C'est vrai qu'il y a quelque chose de très pratique dans le site de rencontre, parce que c'est un accélérateur, mais effectivement, il y a quelque chose d'étrange dans le fait de faire un choix rationnel, alors que dans la vie, on est saisi par la magie, ce qui vous est arrivé avec votre mari.
Exactement, c'est une magie. Et je me dis que c'est une façon de... Parce que dans mon quotidien, voilà, je sais pas, peut-être que ça peut m'arriver, peut-être que ça m'arrivera pas. Donc j'essaie quelque part de forcer un peu le destin. Mais en même temps, est-ce que j'emploie la bonne façon? Je ne sais pas.
Je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon. La bonne façon, c'est le désir. C'est vraiment qui oriente. Mmh. Donc dès lors que vous désirez le faire, peu importe le canal que prend ce désir.
Oui, mais je crois que je suis... Et puis j'ai eu 3 rendez-vous avec des personnes, j'avais l'impression d'aller à un rendez-vous d'embauche, quoi, de faire un
processus.
Comme si vous alliez pour un entretien d'embauche. Vous êtes là en train de parler de ce que vous avez fait, de ce que vous aimez, enfin, comme si vous étiez avec un employeur. Et je ne me sentais pas du tout dans le... Je ne sais pas. Et puis, il y a aussi le côté intime, de retrouver l'intimité avec un homme. Je ne sais pas si j'y arriverai. Vous voyez, je me pose tellement de... Je me mets des barrières, je crois.
Vous savez, vous avez le désir de rencontrer quelqu'un. Je pense que pour toutes les peurs qui vous arrêtent, enfin qui vous freinent, je pense qu'il s'agit absolument de faire confiance au désir. C'est que, en théorie, si vous essayez d'aborder les choses par la pensée rationnelle, il n'y a pas de solution. Parce que si vous pensez rationnellement rencontrer un autre homme que votre mari avec qui vous avez partagé quelque chose de si fort, sur le plan rationnel, ça paraît impossible.
Bien sûr.
Maintenant, quand on est avec un autre être vivant, qui lui aussi vous adressera son désir, eh bien, il y a quelque chose qui se produit qui dépasse tous les raisonnements et toutes les peurs. C'est à ça qu'il faut faire confiance.
Tout à fait.
En revanche, par rapport à ça, je pense qu'il s'agit d'être absolument attentive, à mon avis, dans le chemin que vous suivez. C'est si jamais la magie ne se produit pas dans les rencontres que vous avez, si vous ne sentez pas que vous avez un élan vers la personne, qu'elle-même en a un vers vous, et qu'il y a une sorte de magie dans l'air, je pense qu'il ne faut pas y aller sur des raisons rationnelles.
Tout à fait. Ça, je le ressens.
Oui.
Malgré que je ne veux pas rester seule, je ne veux pas rester seule à tout prix. Ouais,
C'est exactement ça dont
j'ai besoin. J'ai besoin de retrouver cette magie de la rencontre, d'être avec quelqu'un qui partage des choses avec vous. Voilà, je ne veux pas mettre... Parce que c'est facile de se mettre avec quelqu'un comme ça. Moi, ce que je recherche, c'est quelque part cette magie que j'ai connue.
Oui.
Voilà, ça sera une autre histoire, ça sera avec une autre personne. Mais c'est ça que je recherche.
Et je crois que c'est absolument le bon cap, c'est la bonne boussole.
Oui, exactement.
Vous savez, le processus que vous appelez de recrutement, il peut avoir un côté désagréable, mais finalement, l'important, c'est pas ce que vous dites pour parler de votre parcours, de vos goûts. Oui. C'est pas le discours rationnel quand vous êtes face à un homme. C'est ce qui, avec un homme comme ceux que vous rencontrez en ce moment, c'est ce qui se passe entre les lignes qui est important.
Oui, tout à fait.
C'est ce que vous ressentez dans un regard, dans une qualité de présence, dans ce que dégage quelqu'un. C'est ça qui va déterminer la possibilité de faire quelque chose avec quelqu'un.
Tout à fait, oui, c'est sûr. Mais c'est vrai que quelque part, ça me coûte un peu cette démarche. Vous voyez ce que je veux dire ?
Je comprends.
C'est pas facile. J'ai l'impression de me forcer quand même. En même temps, j'ai envie de le faire et je suis partagée entre ces deux sentiments.
Pour ma part, je serais tentée de vous soutenir à continuer parce qu'il y a quelque chose qui se passe, vous l'avez sûrement déjà entendu dans le milieu médical. Vous savez, parfois des femmes veulent avoir des enfants, elles n'y arrivent pas. Elle lance un processus d'adoption qui est laborieux, qui, là aussi, elle parle d'un processus, comme vous le dites. Et c'est justement parce qu'elles ont lancé ce processus qu'elles tombent enceintes naturellement. Vous avez
tout
déjà
fait,
entendu
oui.
ces choses-là.
Oui.
Eh bien, dans les personnes que je reçois au cabinet, ça se produit aussi dans l'amour. C'est-à-dire que la personne lance une démarche à travers un site, parce que c'est le moyen oui. qui semble être l'accélérateur à sa disposition. Et oui. le fait de lancer ça, elle se met dans la mouvance de la rencontre, elle lance une dynamique, et c'est parfois là que la rencontre naturelle à la boulangerie, par exemple, se produit. Je pense
oui,
à ça, parce qu'à la boulangerie, c'est vraiment
exactement.
Ce qui s'est passé.
Et en fait, c'est ce que j'aimerais, c'est le cas de figure que j'aimerais.
Oui.
Parce que je trouve que cette démarche... voilà, je suis pas, enfin, peut-être parce que c'est pas ma génération, je sais pas, mais je me sens pas faite pour ça, quoi.
Il y a que vous, Élodie, qui puissiez sentir si c'est difficile au point d'être une corvée rédhibitoire ou si ça vous paraît possible dans l'idée, non pas de passer forcément à travers ce processus, mais dans l'idée bien d'enclencher ça. Quelque chose.
Oui, c'est ça. C'est cette oui. idée d'enclencher quelque chose.
Alors peut-être ça vaut la peine de continuer. Alors aussi, d'expérience en écoutant des personnes, je sais que dans l'usage des sites, chacun trouve après ses astuces. Par exemple, trouve le moyen de fixer rendez-vous et de passer, de regarder la personne, et puis quitte à ne pas rester si jamais elle ne sent rien. Enfin, je crois qu'il faut vous autoriser ces choses-là. Après, on s'arrange pour ne pas nuire, faire les choses courtoisement. Mais je pense que peut-être qu'il y a des choses à inventer aussi pour ne pas vous infliger des exercices difficiles. Ou peut-être vous pouvez dire à la personne que vous avez du mal à parler, que la première fois vous voulez rester que 10 minutes. Et que si jamais vous êtes bien, vous prolongez. Enfin, il y a parfois des façons
oui,
de faire.
Comme...
Oui, exactement. Et je crois qu'il ne faut pas hésiter à inventer, parce que ça, c'est la force de l'être humain face à la technologie, comme les sites. Oui. C'est qu'on peut toujours trouver une façon de l'utiliser qui nous rende la chose plus légère, qui s'adapte à... Et ça, je sais que j'ai une personne qui a fait ça, qui prévenait très gentiment en disant « Pour moi, c'est difficile cette rencontre, j'ai du mal à surmonter. Donc si ne vous offensez pas que pour la première fois, on passe juste un café 10 minutes. Et si ça permet de partir avec légèreté, si on ressent pas la magie. Et puis de prolonger si on se sent bien. Enfin, c'est une idée, mais vous en aurez peut-être d'autres. »
Oui, bien sûr. Moi, très bien.
Voilà, Élodie. En tout cas, je peux que vous soutenir. Et puis, vraiment, vous savez, il n'y a pas de meilleur pari qu'on puisse faire que sur nos forces vitales. Donc, c'est votre désir qui va vous emmener vers la bonne rencontre.
D'accord. Merci à vous, Céline.
Je vous souhaite un bel été, Élodie. Alors, il y a un déluge de messages pour vous. Allez, j'en lis un. Avant de... Donc Jacques qui dit « Élodie, quel douloureux parcours, la vie ne vous a pas épargné, malgré ces injustices, vous semblez ne pas avoir de colère et de rancune, vous êtes positive. » Et Valérie qui dit « Quelle merveilleuse femme cette Élodie, courage Élodie, un autre amour viendra vous faire du bien, sans pour autant oublier votre mari, la personne disparaît mais l'amour reste. »
Ben, c'est très gentil à vous, merci à tous les auditeurs de leur pensée et à vous Sabine de votre accompagnement.
Avec plaisir, n'hésitez pas à nous donner de vos nouvelles.
Tout à fait. Une pensée pour Sarah qui m'a permis d'enclencher cette discussion avec vous.
Elle est à côté de moi et elle sourit.
D'accord. Par contre, pour avoir les petits messages des auditeurs, c'est possible ou pas ?
Sarah me fait oui de la tête. Oui, elle D'accord. me dit qu'elle va vous les transmettre. Alors là, il y en a beaucoup. Là, j'ai par Facebook et par SMS. Voilà, D'accord. c'est vraiment beau ce qui vous est dit. Elle va vous les transmettre.
Elle me les transmettra par quel biais ?
Comment vous allez transmettre ça ? Elle va l'appeler. Elle va vous appeler.
D'accord. Bonjour, merci Sabine. Voilà. Et bonne continuation et merci pour tout ce que vous faites.
Merci à vous Élodie. Bel été.
Sabine Calégari sur RTL. Parlons-nous. 22h minuit, parlons-nous. Sabine Calégari sur RTL.
Et soyez les bienvenus si vous nous rejoignez maintenant. C'est Parlons-nous, l'émission qui vous donne la parole en direct pour toutes vos questions de vie. On est ensemble encore plus d'une heure. N'hésitez pas à nous appeler au 09 69 39 10 11. Et si vous pensez à nous appeler depuis un petit moment, n'hésitez pas. C'est l'été, le standard est plus accessible pour me passer rapidement vos appels. Je vous redonne le numéro 09 69 39 10 11. Bonsoir Clara.
Bonsoir.
Eh bien, bonsoir Sabine.
Bonsoir, de quoi souhaitez-vous nous parler, Clara?
Je voulais vous parler de mon retour de vacances.
Oui.
Donc je suis partie une semaine en vacances avec mon copain.
Oui.
Donc c'est une relation en fait, on est déjà sortis ensemble il y a 3 ans, en 2018. Il m'a quittée pour une autre femme.
Oui. Vous étiez restés longtemps ensemble en 2018?
Ben, quasiment toute l'année, enfin 9 ou 10 mois,
ah,
voilà,
oui.
du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Ensuite, suite à la rupture, je suis tombée malade, gravement malade, on va dire. Donc je n'avais plus de contact avec lui depuis quelques temps, depuis quasiment un an.
Oui.
Et puis avec la crise sanitaire et le deuxième confinement du mois d'octobre, il est revenu, nous n'habitons pas ensemble, hein, pas dans la même ville non plus.
Mmh.
Il est revenu donc dans ma région et on s'est revus donc pendant un mois.
C'est lui qui essayait de reprendre contact avec vous ?
Ben, en fait, s'il est revenu là, c'est parce qu'il est revenu chez ses parents qui habitent à côté de chez moi, que je vois régulièrement.
Oui.
Donc, j'ai pu l'éviter pendant un mois, mais c'était compliqué en fait, hein, parce qu'on se voyait régulièrement et que donc ça devenait un peu. Enfin, c'était pas facile. Et donc, on s'est reparlé, on a recommencé à se voir. Ça nous a permis déjà de pouvoir parler de ce qui s'était passé en 2018. Donc
vous,
ça,
votre première tentation, Clara, c'était de l'éviter, c'est ce que vous dites, hein, pendant
oui,
le premier
bien
mois.
Sûr. Oui. Oui. Ah oui, oui, vraiment, je ne voulais pas m'entendre parler. C'était, voilà. Et oui, puis surtout qu'il parlait de sa rupture avec donc son ex. Enfin, je n'avais pas envie d'entendre ce genre de choses. Ce n'était pas vraiment possible, étant donné que c'était ma remplaçante. Vous voyez ce que je veux dire?
C'était pas
vraiment.
Oui, vous n'étiez pas la bonne personne à qui adresser ce genre de confidence.
Bon, voilà, tout à fait. Donc après, on s'est revus tous les deux. On a pu reparler de ce qui s'était passé donc en 2018. Donc moi, ça m'a fait beaucoup de bien parce que ça m'a permis de comprendre plein de choses et notamment que qu'en fait, c'était pas à cause de moi que ça s'était terminé, que même s'il n'était pas avec moi, mais il n'était pas heureux pour autant. Donc ça m'a beaucoup rassurée en fait par rapport à ce que je pouvais ressentir et puis ce que j'avais pu m'imaginer aussi
parce que là je relève simplement ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est que vous semblez dire que vous êtes tombée malade du fait de la rupture, donc ça signifie que ça a pris une valeur très violente.
Trop malheureuse. Oui. Alors c'était juste ce que je lui ai dit. J'ai dit t'es mon plus beau révélateur. Alors bon, j'avais d'autres problèmes, liés à ma mère, à mon frère. Enfin, j'avais d'autres problèmes, si vous voulez. Mais cette rupture-là, en l'occurrence, a fait que je suis tombée vraiment malade, quoi. Ouais. Donc ça m'a permis moi de commencer aussi mon cheminement. Donc
oui.
Moi j'ai vu une psychologue pendant 2 ans suite à ma maladie pour parler de tout ça. Ça m'a permis aussi de pouvoir remettre plein de choses en question, de recadrer les choses, de voir comment je voyais ma vie, comment je voulais continuer ma vie. Et puis donc lui n'en faisait pas partie hein, au moment où je faisais ce chemin-là.
Mmh.
Il est revenu de manière fortuite parce que bon les conditions étaient telles que voilà, ça s'est fait, hein, c'était pas prévu, mais enfin bon, c'est comme ça. Et puis là, ça fait 8 mois en fait qu'on a une relation suivie où nous ni moi n'avons d'autres partenaires, hein, donc ça reste assez exclusif. Hein.
Quand vous dites ça, c'est que la première fois, avant de vous quitter, il a mené les deux relations de front.
Alors, pas avec son ex, mais il avait des aventures, oui. Parce qu'on n'habite pas ensemble et il avait des aventures. Et comme il me disait tout, j'étais au courant de tout.
Mais c'est étrange, c'est un peu particulier, ça, comme fonctionnement.
Oui, tout à fait. Ben, c'est quelqu'un qui est très... Oui, qui est très difficile à suivre. Mais donc là, justement, ça nous a permis de remettre les choses à plat. Moi, j'ai pu lui exprimer ce que je ressentais, ce que je voulais, comment je voyais les relations. Hein. Donc, alors après, en étant confinée, bien sûr, on rencontrait moins de monde aussi, donc c'était plus facile. Mais là, ce qui est incroyable, c'est que donc il a repris son activité. Nous sommes donc à nouveau séparés, puisqu'on a 3 heures de route entre nous deux. Et donc, il m'a appelé au mois de juin pour que je vienne passer le week-end avec lui. Donc, j'ai dit OK. Il est reparti au mois de mai pour travailler.
Donc, au mois de mai, vous aviez passé 6 mois ensemble, hein, c'est ça?
Voilà, oui, c'est ça. Oui.
Et pendant ces 6 mois-là, vous avez vécu ensemble ou toujours pas?
Quand il venait à la maison, oui, il pouvait rester le week-end plusieurs jours. Il y avait rien de ça, dépendait moi aussi. Parce que moi, par contre, je travaillais, j'étais en télétravail principalement, mais bon, ça dépendait beaucoup de ça, de ce que j'avais à faire, comment j'étais disponible. Mais bon, on se voyait quasiment tous les week-ends. Et quand il venait à la maison, il restait plusieurs jours, oui.
Donc là, ouais. Par rapport à la première séquence de votre relation, vous avez fait l'expérience d'une vie commune, que vous,
oui,
même sur des séquences, mais une
oui.
expérience que vous n'aviez pas eue
oui.
en 2018.
Oui, oui, tout
d'accord.
à fait.
D'accord.
Donc c'était différent. Oui, c'était différent.
Oui.
Et puis, il y avait toujours des problèmes qu'il avait en 2018, qu'il a toujours maintenant, mais si vous voulez, ce qui est très important dans notre relation, c'est qu'on peut se parler de tout. Qu'à partir du moment où on se parle, comme je dis toujours, à partir du moment où on se parle, eh bien, on arrive à comprendre les choses et du coup, à s'en sortir. Enfin,
oui,
je veux dire, on trouve toujours une solution.
Oui, c'est ça. Et, au moins, essayer de trouver une solution. Parfois, c'est un compromis. Parfois, c'est l'un
oui.
qui s'adapte. Parfois, c'est l'autre.
Tout à fait. Voilà, tout à fait. Et en fait... au mois de juin, on se revoit, on prévoit de partir en vacances ensemble, sachant que nos vacances, donc lui c'était en juillet, moi au mois d'août, donc ça collait pas, donc j'ai demandé une dérogation, j'ai pu avoir une semaine de vacances en même temps que lui pour qu'on puisse partir tous les deux. Donc super contente, je me dis c'est chouette, on va partir tous les deux pour la première fois, hein, pour le coup, on part
oui.
à l'étranger, donc voilà.
À nouveau une séquence de vie commune.
Tout
Alors,
à fait.
Avant que vous continuiez Clara,
oui.
nous allons marquer une courte pause, le
D'accord.
temps des informations, puis
oui.
nous reprenons notre échange. Alors surtout vous ne quittez pas, vous restez
D'accord.
en ligne et nous nous retrouvons dans un instant.
Voilà. 22h minuit, parlons-nous. Sabine Calégari sur RTL.
Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez maintenant. Parlons-nous, continue sur RTL pour encore une heure ensemble. Si vous avez pour votre vie une question qui vous tient à cœur ou vous tourmente, n'hésitez pas. Il y a toujours des solutions ou tout au moins, il y a toujours une marge d'action possible. Le numéro, vous le connaissez, 09 69 39 10 11. Et nous retrouvons Clara.
Oui.
Oui, vous êtes toujours là, Clara. Alors, pour ceux qui nous rejoignent, voilà, je parle sous votre contrôle. Vous allez
oui.
me corriger si c'est pas exact. Je dis ce que nous nous sommes dit pour le moment. Donc, Clara, vous avez retrouvé un homme il y a maintenant 8 mois avec lequel vous aviez déjà eu une relation en 2018 de presque 1 an. Et ça avait été en 2018 une relation douloureuse parce que cet homme vous avait quitté pour une autre femme et vous aviez
oui.
également découvert qu'il avait des aventures en parallèle pendant votre relation. Vous nous avez dit, Clara, que vous êtes tombée malade, donc vous avez évoqué ça, ce qui semblait assez sérieux comme état, puisque vous avez aussi commencé une thérapie à ce moment-là et cherché à vous reconstruire. Et à la faveur d'un rapprochement géographique avec sa famille, cet homme est réapparu dans votre vie. Vous avez repris une relation, donc on l'a dit, depuis 8 mois maintenant. Vous avez pu passer beaucoup de temps ensemble parce que c'était le confinement. Et là, maintenant, cet homme à nouveau s'éloigne, donc est reparti au mois de mai, vous nous avez dit.
Oui.
Et là, vous parlez de vos projets ensemble pour cet été, tout en nous ayant précisé que dans cette nouvelle séquence de relation, vous parvenez plus à vous parler, vous avez pu...
Oui.
Vous dire des choses à cœur ouvert, mettre des choses à plat. Et là, maintenant,
oui.
vous nous parliez de vos projets d'été.
Oui, tout à fait. Donc, on est parti une semaine à l'étranger tous les deux. Donc, ce qui était pour moi une super nouvelle. Enfin, bon, je pensais que pour lui aussi. Et puis, quand on est arrivé là-bas, quand on est arrivé à l'hôtel, en fait... c'était plus du tout, il portait un masque, vous voyez, c'était plus le même en fait, c'était comme s'il avait deux visages, il était distant, il était froid avec moi.
À peine arrivé à l'hôtel, vous dites ?
Oui. Alors on est allé, on a voyagé en voiture, donc le voyage a été assez long, mais...
Et c'est bien passé le voyage ?
Ben, puis il a dormi, donc oui, ça s'est bien passé. Oui. J'ai conduit, il a dormi.
D'accord.
ça s'est bien passé.
Oui. Mais bon. Pour lui, du moins.
Pour lui, moi, je suis arrivée un peu fatiguée. Mais enfin, bon, c'était pas très grave. Et en fait, dès le premier matin, dès le premier petit déj, à l'hôtel, on s'est pris la tête, quoi. Donc, lui, il s'est levé dans la nuit, il avait chaud, Donc, il m'a réveillée, j'ai mis une heure et demie à me rendormir. Quand je me suis rendormie, son portable a sonné. Enfin, bon, vous voyez le genre de situation sympa. Alors, j'avais vraiment besoin d'une bonne nuit de sommeil pour récupérer.
Oui.
Donc, quand on s'est levé avant d'aller au petit-déj, je l'ai remercié pour cette super nuit, super première nuit à l'étranger. Donc, il n'a pas du tout apprécié.
Et avant que vous lui fassiez cette remarque, là, il était de bonne humeur et de bonne composition.
Je vous dis, il n'était pas pendant 2 jours. Il ne m'a pas dit bonjour. Enfin, il était bizarre, quoi. Il était vraiment bizarre.
Oui.
Et donc, arrivé au petit-déj, donc là, il a fini par parler, parce que bon, il fallait bien que ça sorte à un moment donné. Il m'a dit, comme ça, de but en blanc, il me dit, mais tu crois quoi, qu'on est là à passer une semaine en amoureux, si c'est ce que tu crois, bah, tu vas être déçue. Donc là, je suis complètement tombée des nues. Donc je me dis, que s'est-il passé en un mois, en fait? Parce qu'il y a un mois, on préparait les vacances tous les deux, et on avait l'air quand même sur la même longueur d'onde. Donc pourquoi est-ce que là, maintenant qu'on est là, tu me dis ça? J'ai dit, dans ces cas-là, il ne fallait pas venir. On pouvait aussi très bien annuler et puis ne pas venir. Hein. C'était aussi une éventualité. Il n'y a pas répondu. Et puis après, on remonte à la chambre. Donc la rebelote, je m'en prends plein la figure. Il me dit que je suis en pleine crise de la quarantaine, enfin des choses méchantes, enfin vraiment des choses méchantes qui n'ont pas lieu d'être, etc. Et puis quand c'est comme ça, enfin je sais qu'il parle pas avec son cœur en fait, donc j'essaye de ne pas répondre, de me dire que ce n'est pas personnel, vous voyez.
Déjà eu affaire à ce visage agressif?
Oui, oui, mais où ça partait assez rapidement en fait, donc. Dire que je suis habituée, c'est peut-être un bien grand mot, parce qu'on ne s'habitue pas vraiment à la violence verbale, mais en tout cas, je sais que c'est un coup de grisou, et puis que ça part comme c'est venu, quoi, en fait. Enfin, voilà. Et en fait.
Enfin, c'est quand même dur comme modalité de relation, de devoir s'attendre en permanence, comme vous dites, à un coup de grisou de la part de l'autre, avec des phrases violentes, et ensuite devoir enjamber ça pour pouvoir continuer la relation, c'est déjà éprouvant.
Oui, oui, tout à fait. Oui, c'est déjà éprouvant. Et donc, du coup, on est parti. On a pris nos affaires, on est parti à la plage. Donc, moi, j'ai essayé d'en reparler avant qu'on aille à la plage, mais bon, lui, il voulait pas en parler. Et puis, donc, ça nous a fait du bien de nous baigner. Moi, j'ai redormi un petit peu pour récupérer tout ça. Enfin, bref. Et puis, le soir au resto, il me dit, on va peut-être rentrer plus tôt, parce que si c'est comme ça pendant toutes les vacances et que tu fais la tête, c'est pas la peine.
Donc, il a mis ça de votre côté à vous.
Voilà.
Comme si c'était vous qui étiez coupable.
Voilà. Et donc là, je lui ai dit, je ne pense pas avoir fait quoi que ce soit de mal. J'ai dit, moi, je suis là parce que j'ai décidé d'être là. C'est un choix. J'ai dit, tu avais fait ce choix toi aussi, mais je vois que tu as changé d'avis. J'ai dit, donc maintenant, si tu veux rentrer, rentre. Mais moi, je rentre pas. Voilà. Hein. Moi, j'étais très bien où j'étais. On était dans un lieu paradisiaque. Enfin, franchement, j'avais aucune envie de rentrer, quoi.
Vous avez une certaine force, Clara, parce que quand vous êtes soumise à la violence verbale de cet homme, vous ne vous effondrez pas, en fait. Vous restez ferme et droite.
Non. Oui.
Oui.
Des fois, un petit peu. Il me le reproche aussi. Hein. Il me dit, avec ton petit air, là, tu m'énerves. Mais je n'ai pas de petit air. Je suis comme d'habitude. Moi, je n'ai pas changé. C'est toi qui as un masque horrible, là, depuis qu'on est à l'étranger. Mais je ne comprends pas pourquoi. Voilà.
Enfin, oui.
Donc les vacances se sont passées, je vous fais un résumé, parce qu'on avait prévu de visiter chacun des choses, on a tout fait ensemble finalement, il est resté, on a passé toutes les journées ensemble, on a fait des restos tous les soirs. Et on rentrait le vendredi, donc le jeudi c'était l'avant-dernier jour, donc là c'est pareil, moi je me suis absentée 1h30 toute seule parce que j'avais besoin d'air, de respirer, je voulais faire les magasins. Bon, les magasins étaient fermés malheureusement, mais bon, ça m'a fait du bien de marcher, de prendre l'air toute seule. Quand je l'ai rejoint, il est venu à ma rencontre et puis il me dit, tu sais, ça m'a fait du bien, j'ai réfléchi. Ah, oui. C'est parfait. Donc là, on a pu recommencer à parler. Et puis là, donc c'est surtout lui qui avait besoin de parler, en fait, hein, parce que moi, je lui dis tout ce que j'ai sur le cœur. Donc, bon. Mais je ne comprenais toujours pas cette réaction-là.
Le revirement, oui.
Voilà, oui, tout à fait. Et puis lui, il me dit, bah, écoute, c'est vrai, ça fait 8 mois qu'on se revoit, mais bon... Je ne vois personne d'autre, donc moi non plus, hein, ça je lui ai toujours dit. Enfin, de toute manière, moi ça fonctionne comme ça, je ne peux pas voir plusieurs personnes en même temps, donc voilà. Mais il me dit par contre, pour moi, ben, t'es une amie. Je lui dis, écoute, une amie, il y a quand même un problème, parce que nous on est quand même dans une relation où on couche ensemble. Donc moi je ne couche pas avec mes amis. Enfin, vous voyez,
donc dans cette semaine assez infernale, vous continuiez à avoir une vie amoureuse, une vie intime?
Alors là, j'étais tellement... Non, je n'étais pas vraiment en mode à faire des câlins, étant donné qu'il me faisait une prestation qui était quand même déplorable de lui. Donc, je n'avais pas du tout envie de lui.
Imagine.
Mais on s'est réconcilié le dernier soir, par contre. Mais on s'est réconcilié le dernier soir. On est rentré chez nous. Il a passé le week-end chez ses parents. Et il m'a fait la bise en rentrant. Donc ça n'a servi à rien. Là, il est reparti, il a encore une semaine de vacances, il est reparti chez lui parce qu'il avait prévu un stage, enfin bon, bref. Moi, je ne l'accepte pas. Enfin, je veux dire, je ne vois pas pourquoi il n'assume pas cette relation et pourquoi il me traite comme ça. Enfin, encore une fois, quand je lui dis, est-ce que tu as quelque chose à me reprocher? Il me dit, bah non, rien. Il m'a dit, t'es magnifique, t'es trop sympa, tu ferais pas de mal à une mouche. Bon, ben oui, mais ça, je le sais, en fait. Mais je lui ai dit, le problème vient de toi. Je pense que tu as des casseroles. Enfin, il est malade, je pense. Enfin, je pense qu'il en est un peu conscient. Moi, je lui ai dit que je voyais une psy. Je lui ai dit que ce serait bien qu'il envoie lui aussi une. Mais ça, c'est quelque chose qu'il n'assume pas non plus. Et cette relation, donc lui ne l'assume pas, mais il y a quelqu'un d'autre qui est crucial dans cette relation, qui ne l'assume pas non plus, et c'est peut-être lié, vous allez me dire ce que vous en pensez, c'est sa mère.
Oui. Vous pensez qu'elle a un rôle dans sa vie amoureuse?
Oui. Oui.
Comment vous pensez qu'elle intervient?
La femme pour qui il m'a laissée en 2018, il est sorti avec elle parce qu'elle lui ressemblait.
Oui.
Donc il y a un complexe d'Œdipe assez surdimensionné en fait dans cette famille. Il en est conscient, il le dit lui-même. Hein. Mais après, je suis assez ébahie, c'est que je me dis qu'à partir du moment où on est bien quand on est tous les deux, j'ai du mal à comprendre comment il peut quand même se laisser peut-être influencer par d'autres personnes, parce que les autres personnes ne vivent pas ce que nous vivons.
Il en parle de sa mère, c'est-à-dire, est-ce que lui a parlé de l'intervention de sa mère dans votre relation à vous deux?
Je l'ai questionné, on en a parlé, et il m'a dit non, tu sais, elle ne s'est jamais mise entre toi et moi. Mais sa mère, moi j'étais quand même amie avec elle. Depuis qu'on se revoit, elle ne supporte pas qu'on fasse des choses ensemble. Et je sens qu'il y a une forte jalousie de ce côté-là. Comme par rapport à l'annonce des vacances, elle a fait la gueule pas possible. Enfin bon, je veux dire, c'était compliqué quoi. Hein.
Et il l'appelait beaucoup quand vous étiez en vacances tous les deux?
Non, il l'a appelé parce qu'il avait besoin. Il a eu 2 fois au téléphone pour des... pour s'organiser en fait des choses pour son retour, mais qui n'avaient rien à voir avec avec les vacances. Et après non, son portable a été éteint le reste du temps. Donc ça, je ne sais pas si c'est lié ou pas, mais je me dis que ça peut être une piste en tout cas. Et moi, je sais que sa mère, depuis que tout ça arrive et que je me sens plus proche de lui, mieux avec lui et tout, c'est pas que je me suis éloignée d'elle, mais c'est qu'en fait, ce qui se passe entre nous, ma vie amoureuse, ça ne regarde que moi, en fait. Donc, je le partage pas. Enfin, je le partage pas. Je dis ce qu'on fait, bien sûr, j'en parle, je trouve que c'est notre vie à nous, quoi. C'est pas sa vie à elle, donc.
Si je comprends bien votre question aujourd'hui, Clara, donc aujourd'hui vous avez rompu, donc depuis le moment de la bise, vous n'êtes plus ensemble, hein, c'est bien ça. Avec cet homme. Et vous, votre question, c'est que face à ça, il me semble que vous essayez de construire votre intime conviction sur cet homme, sur le lien. Enfin, vous essayez de comprendre ce qui s'est passé pour ne pas être perdu dans cette histoire. Voilà, c'est
vous. Je veux pas recommencer ce qui s'est passé en 2018. C'était suffisamment traumatisant déjà pour commencer. Donc, j'ai besoin de me protéger. Et puis comment faire? Enfin, je veux dire, c'est quelqu'un que je serais forcément amenée à revoir. Le masque qu'il porte, il tombera peut-être un jour quand il se rendra compte que je lui manque, etc. Comment réagir? Enfin, je veux dire, c'est difficile tout ça, voyez. Enfin,
peut-être si on prend les choses au bon sens dans un premier temps. Vous parlez du masque qu'il porte. Je ne sais pas si c'est un masque, parce que ce qui m'apparaît, vous allez me dire si vous êtes d'accord, c'est que d'un bout à l'autre de ce que vous avez vécu ensemble, c'est un homme qui, même s'il a été amoureux de vous, même quand il est amoureux, ne semble pas en mesure de bien traiter l'autre. Parce que je trouve que dès le début, même dans les moments les plus amoureux de votre histoire, il y a quand même des signes forts qui montrent qu'il ne sait pas prendre soin de l'autre. Par exemple, en 2018, il avait des relations parallèles, il vous le dit. Alors là, je vois pas l'utilité, parce que soit on prend acte du fait qu'on a des relations à côté et qu'apparemment ça en dit long sur la relation qu'on vit, on s'en va, mais je vois pas l'utilité de vous faire la confidence des aventures qu'il a pu avoir. Je vois pas non plus l'utilité quand il vous retrouve il y a 9 mois, l'utilité de vous raconter ce qui s'est passé avec son ex. Rien que le fait qu'il vous confronte à sa vie avec d'autres femmes montre au minimum un manque de tact, et pour être plus tranchant, montre que chez lui, prendre soin de la personne qu'il aime, c'est pas quelque chose qui lui vient naturellement du tout. Et vous dites, donc déjà ça, je pense que c'est pas il me semble que ça, c'est pas un masque, c'est une constante dans sa conduite.
Oui, parce que, oui, tout à fait. Alors que lui, quand il parle de moi, il dira volontiers que, enfin, moi, il me dit qu'il m'aime, hein, c'est ça qui est insupportable, en fait, que je suis le pilier de sa vie, qui sait que je serai toujours là pour lui. Et je lui réponds, bien souvent, je lui réponds, et toi ? Et moi, je sais que je ne peux pas compter sur lui comme lui peut compter sur moi. Donc, il a été là dans des moments où j'avais besoin de lui, certes. Il me l'a prouvé cette année, d'ailleurs, à plusieurs reprises, où je ne l'attendais pas et il a été super. Mais par contre, c'était des moments légers, ce n'était pas des moments graves. Et il y a eu des épisodes où s'il était là quand même, il ne faut pas non plus que je l'accable. Mais bon, après, ce que je veux vous dire, c'est que oui, moi j'ai vraiment besoin d'avoir quelqu'un pour m'accompagner dans la vie.
Oui, je crois que ce qu'on peut attendre de l'amour, c'est que l'amour nous fasse du bien et que nous soyons aimés de la manière dont nous voulons être aimés. Je ne doute pas des sentiments de cet homme pour vous. S'il est revenu vers vous, c'est qu'il ne vous avait pas oublié et il a envisagé un projet d'été. Bon, mais s'il vous aime et qu'il ne vous aime pas d'une manière qui vous rend heureuse, j'allais dire, ça ne suffit pas qu'il déclare qu'il vous aime. Et je crois, comme vous le dites à l'instant, quand on fait un couple, c'est pour trouver un accompagnement, c'est votre terme dans la vie, par quelqu'un qui a l'idée que l'amour nous conduit à prendre soin de l'autre, à ne pas lui nuire, à ne pas le blesser, et quelles que soient les turbulences de l'amour, parce que ça, le sentiment n'obéit pas à la volonté, il arrive qu'on n'aime plus, il arrive qu'on ne désire plus, mais même dans des moments comme ça, on peut toujours prendre soin de l'autre, veiller à ne pas le blesser, veiller à ne pas lui faire violence. Or, cet homme, à aucun moment, n'a veillé à vous préserver.
Non, c'est sûr.
Voilà, et quand il était dans ses hauts et ses bas, chaque fois, les variations vous frappaient de plein fouet. Donc, au fond, qui vous aime ou qui vous aime pas, ce qui est dans les moments où il vous aime ou dans les moments où il vous aime pas, c'est pareil. Dans tous les cas, il prend pas vraiment soin de vous.
Oui, ça,
vous savez, ça, là, je vous lis un message parce que les auditeurs, là, s'indignent beaucoup. Voilà. Alors, il y a la dame de cœur qui dit « Clara, cet homme est un mufle, fuyez pour votre survie. » Il y a quelqu'un qui porte le pseudo du le routier. Il dit, alors, ça commence par un sourire, en tant qu'ancien mineur de fond, le coup de grisou n'est pas dangereux, c'est le coup de poussière après le coup de grisou qui est dangereux. Je vais vous donner la solution, barre-toi. Laurence qui dit c'est un goujat, c'est moi qui l'aurais laissé sur place et je serais rentrée. Donc là, je vous voyais.
J'y ai pensé à le laisser sur place, mais bon, j'ai dit quand même, je vais le ramener. J'y ai pensé, hein. Bon.
Là, je crois que dans le bon sens que je vous exprime et que partagent ceux qui nous écoutent, je ne suis pas sûre que ce soit utile d'aller chercher des explications psychologiques profondes, comme le dit du côté de sa mère. Tout ça est probablement vrai, mais je crois qu'il y a une vérité faciale et évidente, c'est la vérité du goujat. C'est que cet homme ne se conduit pas bien avec vous.
Oui, oui. Et... Mais si vous voulez, le coup de la bise, enfin, franchement, j'ai cru que j'allais tomber par terre, quoi.
C'est inimaginable,
non, là,
après.
Je me fais une bise. Non, mais enfin, ça m'a. D'ailleurs, j'étais. Enfin, moi, je n'ai même pas pu répondre. Ça m'a gelée. Ça m'a gelée sur place.
Mais cette bise, c'est un geste cynique. Parce que cette bise signifie moi, je peux passer d'un registre à un autre sans verser une larme, sans vaciller. Donc, c'est un geste cynique.
Oui,
et vous savez, le côté cynique chez quelqu'un, c'est ça donne jamais un grand amoureux.
Oui, d'accord. Oui, ben je sais. De toute manière, il a jamais été heureux en amour, donc oui. Oui, c'est le problème. Et en partant, donc il me fait la bise et il me dit bon, c'est en courant. Donc là, je l'ai regardé, j'ai refermé, je n'ai rien répondu, j'ai refermé la porte. Non, mais cet homme est fou en fait. Enfin, je.
Il est fou, il y a peut-être quelque chose de plus simple, c'est qu'il est peut-être simplement médiocre.
Oui.
Vous voyez
peut-être, oui.
Bah, il me semble qu'il y a une forme de médiocrité, parce qu'il y a des personnes qui ont des troubles et qui peuvent avoir une certaine grandeur dans la façon de préserver, de prendre soin. Pour moi, il y a une forme de médiocrité dans la conduite de cet homme.
Oui.
Peut-être que vous ne méritez pas ça.
Non, je ne pense pas. Non, je ne pense pas mériter ça, effectivement. Ouais. Surtout après tout ce que j'ai déjà vécu. Donc oui, je ne pense pas.
Parce que vous,
après,
Clara,
je pense que prendre soin de l'autre, etc., c'est quelque chose aussi qu'on apprend beaucoup par l'éducation, par le rôle que jouent les parents, etc. Moi, j'ai ça dans ma famille. Lui ne l'a pas, en fait. Et ça, c'est une grosse différence entre nous aussi. Vous savez, on dit que bien souvent, ce que l'on apprend quand on est enfant, les règles que les parents nous donnent, aussi bien d'ailleurs de politesse que de relations humaines, etc., c'est quelque chose que l'on apprend tout petit. Et je pense que, voilà.
Alors Clara, c'est généreux de votre part de ne pas l'accabler. Mais je pense que finalement, trouver les explications à sa conduite, c'est peut-être une façon d'entretenir le lien d'une certaine manière. Est-ce que vous vous êtes toujours conduite avec beaucoup de dignité dans cette relation? Vous avez accepté d'enjamber la souffrance que vous aviez traversée en 2018. Vous lui avez donné la possibilité de s'expliquer. Vous lui avez donné la possibilité de refonder un couple sur d'autres bases. Enfin, de votre côté, vous êtes allé en thérapie pour probablement vous évoluer. Peut-être c'est ce qui vous a aidé à vous exprimer clairement dans une relation. Je pense que vous êtes conduite avec beaucoup de dignité. Vous avez donné le meilleur. Bon, peut-être que lui n'est pas en mesure d'avoir du répondant, tout simplement, par rapport à la qualité d'amour que vous donnez, que vous attendez.
Oui.
Parfois, vous savez, c'est simplement ça. C'est simplement médiocre.
Ben oui.
Ce qui n'empêche pas d'avoir ses bons côtés et que vous puissiez considérer que ce que vous avez vécu ensemble va et valut la peine d'être connu.
Oui, tout à fait.
Voilà, c'est vraiment pas une façon de discréditer votre histoire, parce que je pense que vous avez vécu des moments qui ont du prix pour vous, mais vous avez évolué aussi. Deux personnes sont en mouvement. Peut-être que vous évoluez vers plus de qualité et que lui est dans une forme d'inertie et au fond n'a pas tellement bougé depuis 2018.
Oui.
Clara, on serait tenté de vous dire de prendre soin de vous, de peut-être voir ce que la vie vous apporte et peut-être de laisser partir cette histoire en gardant ce que vous avez pu y aimer, tout simplement.
Oui.
Alors Clara, l'été arrive, ce sera peut-être propice à ce que vous fassiez des rencontres, à ce que vous puissiez connaître autre chose, quoi que ce soit d'ailleurs, amour ou autre expérience agréable. Ça peut vraiment être bénéfique après ce que vous venez de traverser.
Oui, j'ai prévu une semaine de vacances avec des amis qui vont faire le plus grand bien au mois d'août. Donc c'est quelque chose qui va tomber à point nommé.
Alors, passez de belles vacances, Clara.
Merci, c'est gentil. Merci d'avoir écouté.
Je vous en prie, je vous embrasse, Clara.
Merci,
bonsoir.
Bonne soirée, au revoir.
Sabine Calégari sur RTL, parlons-nous. Jusqu'à minuit, parlons-nous. Sabine Calégari sur RTL.
Il est 23h33 et bienvenue si vous nous rejoignez maintenant. Nous passons encore une demi-heure ensemble et c'est Parlons-nous, l'émission qui traite votre question de vie, votre sujet du moment, en vous aidant à comprendre comment fonctionne l'esprit humain. Le téléphone 09 69 39 10 11, soit en direct, soit sur répondeur, alors n'hésitez pas à nous appeler. Bonsoir Marianne.
Bonsoir Sabine.
Je suis
très heureuse et très émue de vous entendre. Je vous écoute souvent. J'écoutais beaucoup aussi Caroline.
Oui, donc vous êtes une fidèle de l'émission.
Oui. Une grande fidèle, oui.
Ah, et donc vous pensiez peut-être depuis un moment à nous appeler.
Oui. J'avais déjà appelé Caroline il y a quelques mois et je vous rappelle ce soir parce que je me sentais pas très très bien ces jours derniers et puis je me suis reconnue un peu dans les témoignages, les deux témoignages précédents.
De ce soir ?
De ce soir, oui.
Oui.
Moi je suis un peu plus âgée que les deux auditrices qui ont appelé, mais je suis dans une grande solitude affective. J'ai eu beaucoup de déceptions avec les hommes. Je n'ai connu que des hommes un peu goujats aussi, qui ne me témoignaient pas beaucoup d'attention, qui m'ont déçue. Et puis, donc, je suis...
Vous avez fait plusieurs couples établis, enfin, vous avez fait plusieurs tentatives de vie commune et plusieurs histoires assez longues.
Oui. Plus ou moins longue. Bon, je suis veuve. Hein. Je suis veuve depuis 18 ans.
Oui.
Mon couple n'était déjà pas... J'étais pas très heureuse en couple. Et puis, les échecs se sont répétés avec d'autres hommes. Bien que je sois toujours partante, que je sois très tolérante, que je m'adapte. Et malgré tout, ça ne va jamais. Voilà.
Est-ce que vous avez l'impression que ce qui ne va pas, c'est toujours la même chose ? Ou vous avez l'impression que ça ne va pas pour des raisons très différentes ?
Ah non, c'est des raisons très différentes.
Oui. Par exemple, donc vous avez été veuve et vous disiez qu'avec votre mari, vous n'étiez pas très heureuse. Qu'est-ce qui n'allait pas avec lui ?
Bon, toutes sortes de choses. Hein. Ça a été un mauvais choix au départ. Voilà. J'ai fait le mauvais choix.
C'est ça. Donc, dès le début, ça n'allait pas. C'est pas une histoire qui s'est brisée. C'est que c'était difficile tout de suite.
C'était difficile, oui.
Oui.
Oui. Bon, j'étais pas. Comment ? Ni battue, ni. Non, j'étais quand même un peu humiliée. J'étais. C'était pas un mariage très réussi, quoi. C'était pas une belle union.
Oui. Vous semblez en être affectée encore aujourd'hui ?
Disons que oui. Oui, je vis toujours avec ce sentiment d'échec. Et puis des échecs qui se sont répétés donc avec les hommes suivants.
Alors, quand vous dites répéter, qu'est-ce qui s'est répété exactement ?
Les échecs, ne pas pouvoir arriver à une complicité, à une relation stable qui dure, voilà.
Est-ce que c'est juste de dire que vous n'avez jamais été vraiment bien avec un homme? Vous ne vous êtes jamais senti proche? Oui.
Oui. Mais... Mais dernièrement, j'ai rencontré un homme, justement, avec qui le courant passait très bien, qui m'a dit qu'il me trouvait très agréable, très jolie, qu'il avait un très bon feeling avec moi, mais... on s'est vu deux fois, et puis il m'a renvoyé un message en me disant « Je pense que j'aurais pu ressentir des sentiments pour toi, mais j'avoue, et je cite exactement ses paroles, j'avoue que ressentir des sentiments à mon âge m'a fait un peu peur. » Voilà. Alors, je me dis que les hommes ont du mal à s'engager, ont du mal à assumer leurs sentiments, je ne sais pas, je... Franchement, je comprends pas. Je suis très découragée.
Oui.
Très triste. Quelquefois déprimée parce que, malgré tous les efforts que je fais, ben...
Vous avez le sentiment que, malgré tous vos efforts, ça ne va pas pour à chaque fois des raisons différentes, mais qui font que toujours vous n'arrivez pas vraiment à une pleine rencontre avec un homme.
Voilà. Et puis maintenant, ça me fait peur. Maintenant, ça me fait peur. Voilà.
Je pense...
J'ai d'une part la peur de vieillir seule et puis l'envie de partager parce que j'ai une envie énorme de partager. Moi, je ne conçois pas la vie et puis une relation avec quelqu'un sans le partage. Et puis, en même temps, j'ai peur de souffrir si je rencontre... Si je rencontre un homme maintenant, je me dirais, bon, qu'est-ce que je vais, à quoi je m'attends avec celui-là encore? Qu'est-ce qui va se passer? Voilà.
Celui dont vous m'avez parlé à l'instant, celui que vous avez rencontré,
oui,
et qui a dit avoir des sentiments, comment voyez-vous les choses avec lui?
Ah ben, je les voyais très bien. Moi, j'étais, j'étais sur un petit nuage, j'étais comme... comme une gamine de 16 ans, ça avait été, entre guillemets, un petit coup de foudre,
oui,
très agréable. Lui aussi m'avait trouvé très agréable.
Et, oui,
et puis, au bout de deux entrevues, il a reculé en disant qu'il ne se sentait pas d'assumer quelque chose et qu'il avait un caractère ingérable. Voilà ce qu'il m'a dit, et puis qu'il a un peu peur, il a peur de s'engager, voilà.
Et après vous avoir dit ça, vous avez arrêté tout contact ou vous vous donnez temps
non.
Et...
Ah ben, attendez, je vais vous dire, son message n'est pas très vieux, c'est de ce soir.
Oui. Ah ben, ça peut pas mieux tomber alors qu'on se parle maintenant.
Ah ben non, c'est peut-être même ça qui m'a décidé à vous appeler, parce
oui,
que je m'écoute tous les soirs, mais là ce soir vraiment... J'avais envie de vous parler de ça, et puis en plus, j'ai entendu les deux témoignages précédents qui m'ont conforté un peu dans ce que je ressens.
Oui. Et le message, donc vous vouliez en parler plus précisément, son message de ce soir?
Oh, non. Non,
non, c'est ce que vous avez dit, ce sont les termes que vous venez d'évoquer. Et... Son message de ce soir, il vous apprend quelque chose de plus que de dire que qu'il a un peu peur, qu'il hésite à s'engager?
Non, mais ça ne m'apprend rien de plus. Non.
Il vous dit pas pourquoi cette peur est arrivée? Il vous dit pas...
Si c'est à cause de l'âge, bon, je vais vous dire, on est des sexagénaires, hein, voilà. Je n'ai plus 30 ans ni 40 ans, mais bon. Moi, je suis très dynamique. J'aime faire des projets. Je suis très sentimentale.
Mm-hmm.
J'ai des valeurs. Tout le monde me dit... tu mériterais vraiment mieux que ce que tu as eu jusqu'à présent. Tu mériterais vraiment de rencontrer quelqu'un de bien. Et ce quelqu'un de bien, j'arrive pas à le trouver. Voilà.
Oui. Et là, pour vous, cette est-ce que cet homme a rompu? Parce que donc, dans le message tel que vous l'avez dit, est-ce que vous pensez que c'est qu'il vous parle de fin pour votre lien ou comment vous
non,
avez...
Non, on peut même pas dire que c'est une rupture parce que il y avait pas de relation commencée, il y avait rien du tout. C'était juste une première approche, quoi, mais qui s'annonçait très bien. Moi, je vous dis, c'était très agréable comme rencontre. Et puis,
Marianne, j'insiste un peu dans ma question parce que, à travers ce que vous avez dit de ce message, est-ce que vous êtes sûre que cet homme marque une sorte de distance ou de fin dans votre lien, ou vous pensez que simplement il vous communique sa peur en espérant que vous puissiez lui répondre, peut-être le rassurer, peut-être...
Oui, il a peur.
Et s'il a peur, c'est peut-être un peu tôt, Marianne, pour être dans la déception de votre côté. Peut-être qu'il ne vous dit pas qu'il prend de la distance, qu'il ne vous dit pas qu'il veut arrêter. Peut-être qu'il vous fait simplement part de ses sentiments et qu'il a envie que vous les entendiez ou que vous le rassuriez.
Non, mais moi, je ne peux pas commencer une relation avec quelqu'un qui a peur, qui n'assume rien, qui ne peut pas faire de projet avec moi, parce que c'est ce que j'avais cru comprendre un peu. J'ai trop peur d'être de nouveau déçue, voilà.
Je vous comprends tout à fait, Marianne, parce que vous avez une longue histoire de déception, donc vous êtes tentée de vous protéger.
Voilà, mais vous savez, je me protège tout à fait maintenant.
Mais parfois, nos protections deviennent aussi nos prisons. Je pense qu'il faut être vigilant, parce que est-ce que le fait d'interpréter le message de cet homme à travers le filtre de votre déception, ça risque pas de créer une forme de malentendu? C'est-à-dire où vous entendez « Ah, encore un homme qui ne peut pas s'engager, qui n'est pas prêt, qui va me décevoir », alors que lui, peut-être, vous communique simplement une peur, mais que pour lui, ce n'est pas la fin et que c'est simplement un épisode d'échange, de confidence, de demande d'aide éventuellement pour pouvoir continuer. Vous voyez, est-ce que Vous le prenez à travers le filtre de vos déceptions antérieures, mais est-ce que c'est bien ça qui se passe? Est-ce que vous pensez que ça veut dire qu'il ne veut pas s'engager, qu'il ne peut pas faire de projet, qu'il est inapte au lien? Peut-être pas forcément.
Ah si, je pense qu'il ne veut pas s'engager. Je pense. Et puis moi j'aurais besoin, vous voyez, parce que, je suis vraiment seule. J'aurais besoin de quelqu'un qui me soutienne un peu, qui m'épaule, qui me comprenne, qui m'encourage. Et pourtant, je ne me laisse pas aller. Hein. Comme je disais à Colin tout à l'heure, je fais des essais pour rencontrer quelqu'un sur Internet. J'ai répondu à des annonces. Je suis allée dans une agence matrimoniale. Mais on m'a présenté des hommes qui ne me correspondaient absolument pas. J'ai essayé de m'adapter, mais au bout d'un moment, ça n'allait pas. Et je me laisse pas aller du tout. Hein. Je suis dynamique, je m'adapte, mais je peux pas user le reste d'énergie que j'ai à essayer de soutenir un homme qui a peur de s'engager dans une relation. Vous voyez? Moi, j'aurais besoin d'un partage et puis qu'on s'épaule l'un et l'autre.
Pour l'instant, vous n'en avez pas parlé avec lui de sa peur?
Oh non, pas vraiment, non.
Oui. Encore une fois, vraiment, je vous comprends.
Je l'avais trouvé très, très négatif, très pessimiste. Voilà.
Ah. Oui. Même au moment où vous avez ressenti quelque chose et où vous étiez...
La deuxième fois. La deuxième fois, j'ai vu, oui.
Donc vous aviez eu des signes déjà de ça?
Oui, oui.
Qu'est-ce qu'il vous avait dit de pessimiste à ce moment-là?
Qu'il était très casanier, qu'il ne voulait pas faire de projet, qu'il sortait très peu, qu'il voyageait très peu, qu'il était assez solitaire. Et bon, je lui ai même demandé pourquoi il faisait une recherche pour rencontrer quelqu'un.
Oui, et qu'est-ce qu'il a dit?
Oh, il m'a dit, on ne sait jamais si je trouvais vraiment... je ne sais pas.
Oui, alors là, je comprends que vous ayez des signaux d'alerte qui s'allument si dès la deuxième rencontre, déjà il vous dit qu'il n'est pas dans l'élan, mais qu'il est plutôt dans le repli. Enfin, même pas par rapport à vous, mais c'est sa position dans l'existence. Là, effectivement, c'est assez dissuasif parce que c'est pas une position très propice à l'amour.
Non.
Oui.
Donc, mais ça me conforte dans l'idée que, je répète, beaucoup d'hommes ont du mal à s'engager. Ils n'arrivent pas à se stabiliser, à s'engager, à partager, je sais pas. Moi, j'attends toujours quelqu'un qui peut partager. Voilà.
Marianne, vous voulez bien me parler un peu de votre histoire, de votre enfance, de comment s'est passé votre...
J'ai eu une enfance très heureuse.
Oui.
Non, j'ai pas, je ne traîne pas de casserole, si vous voulez, de mon enfance. J'avais des parents qui vivaient à la campagne. J'ai toujours vécu à la campagne, mais j'étais heureuse. On vivait de peu, mais on vivait modestement. Mais j'ai eu une enfance heureuse.
Oui.
Avec des parents qui s'aimaient, qui m'aimaient.
Donc vous avez eu en modèle un couple parental qui était dans cette complicité que vous recherchez?
Ah oui.
Ah oui, vos parents, eux, en fait, vos parents ont réalisé ce que vous cherchez, c'est ça?
Tout à fait. Mes parents étaient, oui, le couple idéal. Ils s'aimaient, ils étaient complices. Jamais de disputes, jamais de conflits, ou très peu. Non, j'ai pas eu un mauvais modèle sous les yeux, non.
Je crois que même d'après ce que vous dites, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'à partir du modèle parental, vous avez formé un idéal pour l'amour qui est fait de complicité, de fluidité, de proximité.
Oui. C'est ce que je pense que tout le monde souhaite. Hein.
Oui, alors il y a toutes sortes de souhaits dans l'amour. Je pense qu'il y a des aspirations très différentes. Il y a des personnes qui mettent, je ne sais pas, l'intensité, la passion au-dessus de la complicité. Il y en a qui mettent la création en commun au-dessus de tout.
Bon, une entente, une complicité, du partage.
Oui.
Et une envie de faire des projets, voilà.
Et votre père, quel type d'homme est-ce ou était-ce?
Alors, mes parents sont décédés.
Oui.
Papa était un homme très très sentimental, très très doux.
Oui.
Je tiens énormément de lui. Hein. Je suis une grande sentimentale, hyper sensible.
Oui.
Il n'était pas très autoritaire, très gentil, très très doux avec nous.
Donc c'est comme ça que vous êtes devenue, donc vous lui ressemblez. Est-ce que c'est aussi comme ça que vous imaginez votre homme, avec ce côté doux et sentimental?
Oui, un petit peu, forcément.
Oui. Et le tout début de votre vie amoureuse, vos amours de jeune fille, votre premier amour, comment ça s'est passé?
Moi, j'ai fait le mauvais choix.
Votre premier amour, c'était votre mari?
Oui.
Votre premier mari? Ah. Et vous n'aviez pas connu avant de coup de cœur ou même des relations qui restent assez...
Du tout, des petits coups de cœur comme on en a à 16 ou 18 ans, mais j'étais très, très réservée, très... Je n'osais pas m'engager avec les garçons, voilà.
Et pourquoi vous aviez si peur alors que vous aviez eu auprès de vous une figure d'homme comme votre père qui était accueillant, ouvert? Pourquoi vous aviez peur des garçons?
Parce que maman me faisait peut-être... me donnait un peu la peur des... Bon, il n'y avait pas beaucoup de dialogue ou de psychologie ou de confidence sur l'amour à cette époque-là. Hein.
Oui.
Donc, je me con... confiais très peu à maman. Et puis... voilà, je...
Et vous aviez des amis, vous savez, de celles avec qui on partage des premières expériences amoureuses ou...
Des amis, oui, oui.
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 Ce qui me semble, Marianne, dans ce que vous dites, c'est que finalement, vous aviez sous les yeux un modèle parental très harmonieux de couple à partir duquel vous avez formé votre idéal amoureux. Mais en revanche, j'ai le sentiment que du fait de... du silence de votre mère sur ces sujets-là, on vous avait peu transmis, allez, si on dit un terme familier, de mode d'emploi pour l'amour, ou de... On vous avait peu appris comment faire avec l'amour. Est-ce que ça vous paraît juste?
Oui, c'est ça.
Et ouais, je pense que... Alors, avoir un modèle presque...
J'ai quand même évolué un peu depuis.
Oui.
J'ai quand même évolué.
J'imagine.
Ça ne m'a pas aidé à trouver quand même. Je cherche pas l'homme idéal. Hein, je cherche pas la perle. Je sais que l'homme idéal n'existe pas, tout comme la femme idéale n'existe pas non plus. Mais je souhaiterais quand même quelqu'un avec qui je puisse m'accorder, m'adapter, et voilà.
Alors. Bien sûr, on peut que souhaiter que la vie vous apporte ça, mais parfois ce qu'on peut faire quand on réfléchit sur soi, c'est voir ce qui, de notre côté, peut favoriser cette rencontre. Il y a une part de hasard, mais il y a aussi une part active dans le hasard. C'est l'esprit dans lequel on se met qui peut favoriser la bonne rencontre. Et
oui,
il me semble...
Je pense que j'ai fait tout ce qui était possible de faire. Je voyage beaucoup, j'ai voyagé seule. Même dans les voyages, je n'ai jamais fait de rencontre. Je reste toujours positive.
Alors ça, je ne doute pas une seconde, Marianne, de votre côté actif, entreprenante, positif. Mais nous avons aussi un inconscient qui lui a intégré des expériences douloureuses. Et moi, l'impression que j'ai comme ça à première vue, c'est que vous êtes partie avec ce trésor entre les mains qui est un modèle parental harmonieux, mais aussi avec peu de modes d'emploi ou peu de savoir pour vous guider dans la relation amoureuse, puisque votre mère ne parlait pas de ces sujets-là. Bon, il ne s'agit pas de la juger, hein, mais c'est plutôt d'essayer de comprendre ce qui s'est passé pour vous. Et puis, vous avez fait une première rencontre qui a tout de suite été votre mari. Donc, peut-être que vous vous êtes engagée dans ce mariage, vous dites que vous avez fait un mauvais choix. Peut-être vous n'aviez pas trop la grille pour... repérer les signes, pour voir si l'homme vous convenait vraiment. Et peut-être que vous avez eu une première déception qui me semble avoir laissé une marque très lourde sur vous.
Ah oui, ah ben ça c'est certain que ça m'a laissé une marque très lourde. Oui.
Et vous savez, et là c'est pas une question de votre bonne volonté ou de votre conscient, mais quand il y a une marque très lourde sur vous, c'est votre inconscient qui se met à former des croyances sur les hommes. À partir d'une expérience douloureuse, votre inconscient commence à formuler des croyances du type « un homme ne s'engage pas, un homme n'est pas aussi ardent qu'une femme dans l'amour, un homme ne prend pas ses responsabilités ». Et même si d'un côté vous avez toujours le désir d'aller vers le monde masculin et de rencontrer quelqu'un, lui, votre inconscient, il a ses croyances qui vous limitent d'une certaine manière. Vous voyez?
Oui, oui, je vois ce que vous voulez dire, mais je ne suis pas d'accord du tout. Hein. Parce que c'est pas mon inconscient qui fait que j'ai rencontré des goujats. Hein. C'est pas mon inconscient. Le goujat, il était bel et bien là. Hein. Il était très vivant, très existé. Il existait. Il était voilà. Des hommes qui ne font aucune attention, qui ne vous prêtent aucune attention quand vous allez chez la coiffeuse ou que vous habillez bien. Un homme qui me reprochait presque d'être trop coquette, qui me disait pour aller à tel endroit, ne t'habille quand même pas trop bien, alors que je m'habille, je suis coquette, je suis féminine, mais sans trop. Je ne suis pas une poupée Barbie, mais quand on vous fait des remarques comme ça, c'est bien de la goujaterie. Hein. Et puis un homme aussi, je vais vous en citer quelques-uns. Voilà, un homme qui vous fait partager en deux le montant de la facture de restaurant un soir de Saint-Valentin. Voilà, si c'est pas de la goujaterie, ça, c'est pas mon inconscient qui parlait là. J'ai bel et bien payé la moitié d'une facture de resto de Saint-Valentin.
Alors, vous savez, quand on dit que l'inconscient est présent et détermine notre vie, c'est sûrement pas pour dire que c'est votre inconscient qui crée la goujaterie de l'autre, ni même qui crée la rencontre, forcément. Là où il peut intervenir, vous savez, quand on a une croyance dans l'inconscient qui consiste à dire « les hommes sont irresponsables ou ne s'engagent pas », quand il a cette croyance, finalement, et qu'on rencontre quelqu'un qui est goujat, ou qui correspond à cette croyance, ça donne quelque chose de connu et de familier qui empêche parfois que l'on rompe très vite et qu'on se dégage très vite. Vous savez, face au connu ou face au familier, on a tendance à s'adapter, même à notre insu. Donc ce que je dis, c'est pas que votre inconscient a provoqué la goujaterie, ça leur appartient, c'est leur réalité, ni même que votre inconscient a provoqué la rencontre. Mais si vous avez l'idée qu'un homme c'est comme ça, peut-être que quand vous rencontrez un homme qui correspond à ça, qui effectivement ne s'engage pas ou se comporte mal, ça vous est familier, c'est du connu, et ça peut ne pas vous éjecter de la relation aussi vite que vous pourriez le faire si vous partiez d'une page blanche. Vous voyez ? Donc c'est plutôt ça. Donc moi je pense que... Alors je ne sais pas si vous seriez prête à ça, mais peut-être que ça vaudrait la peine, si vous en avez l'envie, d'envisager d'être accompagnée par un thérapeute auprès desquels vous puissiez déposer toutes ces déceptions, prendre le temps de les énoncer, prendre le temps de vous indigner, d'exprimer votre colère, d'exprimer tout ce qui peut être lié à ça, peut-être pour vous donner une chance de repartir d'une page blanche.
Oui, je vais y réfléchir.
Je vous livre ça, Marianne, vraiment, si vous le souhaitez. Et n'hésitez pas à nous rappeler, vous l'aviez fait déjà une première fois avec Caroline. Voilà, si vous préférez nous rappeler, nous dire où vous en êtes, surtout n'hésitez pas, ça sera toujours avec plaisir pour moi.
Entendu. Merci, Sabine.
Prenez soin de vous, Marianne. Au revoir. Et sur ce témoignage de Marianne, nous allons nous quitter après avoir écouté beaucoup de questions d'amour ce soir, des deuils, des ruptures, de la déception, qui ont fait des témoignages forts et on les remercie. Et pour ma part, je vous retrouve demain en direct dès 22h et vous invite à appeler quand vous voulez le numéro de Parlons-nous au 09 69 39 10 11. Je vous souhaite une très belle fin de soirée.